Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le 1er novembre 2018 et c'est la Toussaint. Ça n'est pas la fête des morts, non, bien souvent elle est confondue. C'est demain la fête des morts, le 2 novembre. Donc vendredi aujourd'hui c'est la fête de tous les saints. Et nous voudrions souhaiter une bonne fête à tous les saints de la terre, bien entendu. Et une petite anecdote, au 19e siècle, il y avait eu un procès retentissant. Je ne sais plus, c'était deux personnages assez connus, mais je n'ai plus leur nom, truculents de l'époque. Et il y en avait un qui avait prêté de l'argent à l'autre, et l'autre lui avait dit, ben écoute, je te la rendrai à la Saint-Glinglin. Ça s'est très mal passé, puisque le monsieur en question, qui était le prêteur d'argent, eh bien, est allé au tribunal, et le tribunal a décidé que eh bien, la Saint-Glinglin existait bien, puisque la Toussaint, c'est la fête de tous les saints. Donc il a été condamné à rembourser, parce qu'il pensait que la Saint-Glinglin, ça n'existait pas, c'était quelque chose d'utopique. Eh bien non, la Saint-Glinglin existe bien depuis ce procès retentissant qui a fait que ces deux hommes, en plus de s'être battus, eh bien se sont réconciliés depuis, rassurez-vous, parce que là où ils brillent dans le ciel. Nous saluons bien entendu tous ceux qui brillent dans le ciel, qui nous écoutent, qui nous entendent, et tous ceux qui ont souffert, parce que cette Toussaint, ça nous permet de nous remémorer un petit peu eh bien tous ceux que l'on a aimés. Mais je pense qu'avec la radio du bassin, la radio de l'Entre-deux-Mers, pardon, excusez-moi, j'ai la langue qui fourche, la radio de l'Entre-deux-Mers, au cœur de cette foire de l'Aréole, aujourd'hui, en 2018, je reçois trois personnes, en fait, dont la première personne qui va nous expliquer un petit peu ce qu'il fait, c'est Jean-François Depoudier, qui remet au goût du jour quelque chose. Alors, c'est un ancien poulet, en fait, si j'ai bien cru l'histoire. C'est un ancien poulet. Non, c'est un petit peu vulgaire. Là aussi, on peut dire pourquoi on appelait les policiers les poulets, le 36 quai des Orfèvres. Parce que cette maison du 36 quai des Orfèvres avait été construite sur un ancien marché à la volaille. Et le commissariat de police se situait au premier étage. Donc, on allait à la maison Poulaga, on allait à la maison Poulet. Un ancien homme de loi, on peut dire, qui faisait respecter la loi. Et il co-organise cette cinquième foire avicole qui va se situer après-demain, samedi et dimanche, à Langon, la fête des cocottes d'origine. Bien entendu, les cocottes, vous l'avez compris, ce ne sont pas les cocottes en papier. Ce sont des vraies petites bestioles avec des plumes. Et il va nous parler de terroir, il va nous parler de cépages de cocottes. Parce que nous, on a l'habitude, effectivement, d'acheter des œufs, d'acheter de la volaille. Mais on ne se rend pas bien compte d'où viennent et quelles sont les origines. Alors Jean-François, j'aimerais que tu nous en dises un peu plus sur ces petites cocottes et sur cette manifestation qui a lieu à Langon, samedi 3 et dimanche 4 novembre 2018. C'est à toi, Jean-François, tu as la parole.
Oui, merci pour votre accueil. Et donc, effectivement, on fait notre cinquième foire avicole des cocottes d'origine à Langon. Les cocottes d'origine, pourquoi ? Parce que ça dépend au départ, ça a été démarré sur la commune d'origine.
D'accord. Qui se situe où alors ?
En Sud-Gironde, juste en dessous Langon d'ailleurs.
Très bien.
Pour ceux qui ne connaissent pas, vers Louchas, c'est un peu plus connu. Et donc tout a démarré là-bas. Hein. C'était un couple d'amis en fait, des amoureux de la nature, qui un jour sont passés vers une foire avicole, comme nous on fait maintenant, et qui ont découvert qu'il y avait des centaines de races de poules, d'animaux, de dindons.
Tu en as répertorié combien toi à titre personnel ?
Moi, j'en ai chez moi.
Non, mais tu en as répertorié, puisque tu me parles de centaines de variétés.
Ah, moi, je ne les ai pas répertoriées, je laisse ça à la fédération. Non, non, c'est la fédération donc, qui décide des critères, et c'est bien elle qui, à travers les races, bah, nous fait travailler. En fait, nous, on se qualifie, la société, on est une société avicole, et on se qualifie comme des éleveurs amateurs, et surtout des éleveurs sélectionneurs. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que la plupart des gallinacés, vous connaissez, vous avez autour de vous, que vous voyez chez vos grands-parents, à la ferme, partout, ce sont des animaux que l'homme a créés. Ça n'existe pas, la poule, dans la nature. C'est des animaux qui, au départ, sont des animaux qui ont été créés par chacun dans son village, avec sa race de poule, et chaque agriculteur...
La poule n'existait pas dans la nature.
Et bien sûr que non.
Donc elle est issue d'où, alors ? On parle souvent de l'œuf ou de la poule.
Bonne question. Elle est issue d'un faisan. Au début, c'est un faisan. Et donc, à force de travail, parce qu'il a fallu avoir de meilleurs œufs, Et oui,
on parle de poules faisanées, d'ailleurs.
Oui, parfois, oui. Et donc, à force de travail, chaque village a créé sa petite race, et chacun a conservé plus ou moins. Mais le problème, c'est qu'il y a de moins en moins d'éleveurs.
D'un coup, tu as balayé tout un mythe. L'œuf et la poule n'existaient pas, c'est le faisan et la faisane.
Ouais, je suis désolé.
Mais voilà.
Je suis désolé. Et donc, à force de travail, vous avez, comme dans toutes les races animales, un nombre incalculable de couleurs, de formes. Nous, en plus, on joue sur les plumes, des lisses, des frisés, enfin, voilà, tout ce qu'il y a. En même temps, ça nous permet aussi de conserver les vieilles races. On perd beaucoup de races. Ici, en Aquitaine, nous avons le Conservatoire des races d'Aquitaine qui est chargé de travailler là-dessus. Et donc, nous avons quelques éleveurs qui non seulement élèvent des poules pour aller en concours, ce qu'on appelle plutôt de l'ornemental, mais qui n'a rien de péjoratif, hein, c'est tout à leur honneur. Et en même temps, les capacités étant les mêmes, les mêmes connaissances, bon, il faut avoir les mêmes connaissances, on travaille sur ces races que certains connaissent. Hein. Je suis sûr que si on va interviewer quelques personnes d'un certain âge quand même, ils vont nous le dire, hein. La race gasconne existe, la race landaise existe, le dinton gascon existe, mais il existe parce que certains éleveurs se sont mis à un moment donné, ont tiré la sonnette d'alarme et ont dit « moi je vais garder la souche ». Et donc avec la souche, ils ont démarré tout doucement, et voilà.
C'est génial ce que tu es en train de nous dire.
Ah mais, sinon tout disparaît. Si personne ne les élève, on ne pourra pas. L'industrie ne va pas élever ce type de volailles. Ça n'a pas d'intérêt pour eux.
Bien sûr. Donc, il y a
voilà, nous, c'est ce qui nous plaît. On parle
des races à viande, on ne parle pas des races à volailles. Ça, c'est bien dommage. Alors, il y a quelques AOP ou IGP.
Voilà, tout à fait. Hein. Je veux dire, même dans ces concours, on va retrouver des grandes races comme la Bresse, enfin des races connues pour la cuisine. Nous, on ne fait pas la cuisine avec. Nous, on les présente en concours. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on travaille pour conserver le standard de cette race. Il ne faut pas que cette race disparaisse. Si celle-là commence à disparaître, une autre disparaîtra après, et ainsi de suite. Et nos enfants ne verront que des poules d'une seule couleur. Et ce n'est pas le but. Nous, on défend la diversité de toutes ces races, leurs origines. Après, on peut jouer... Là, on parlait de la forme, de l'endroit géographique où elles sont nées. De la couleur, mais on
leur
peut
particularité,
aussi...
voilà. Bien entendu, leurs caractéristiques.
On peut jouer sur les deux. Je veux dire,
donc, à Langon, le 3 et le 4 novembre, c'est-à-dire après-demain
samedi
et
dimanche. Voilà.
Il y aura combien de races présentées ?
On va être, je n'ai pas le nombre de races en tête, mais en termes d'animaux, on sera aux environs de 600, parce que la foire exposition est décomposée, en fait. Il y a une partie exposition où il y aura nos animaux qui ont été jugés, d'ailleurs aujourd'hui. C'est en cours, c'est pour ça que je suis libre, parce que je n'ai pas accès à la salle en tant qu'éleveur. Donc ils sont en train de les juger actuellement, là nous avons des juges à la salle. Et la deuxième partie sera la partie bourse.
D'accord.
Des animaux qui sont issus de nos élevages, hein, je veux dire, qui ont toutes les conditions sanitaires qu'ont nos autres animaux, nos conditions de vie, mais qui, nous, on le sait entre nous, ne seront pas à l'origine. En fait, on ne veut pas les garder pour nos souches à nous, parce qu'on a déjà des souches. Donc plutôt que, souvent, malheureusement, qu'elles disparaissent, on préfère les vendre et... Voilà, ainsi inspirer beaucoup de gens pour trouver le renouvellement de l'association, avoir de plus en plus d'éleveurs. Il ne faut pas avoir 2, 3, 6 races, 10 races. Certains éleveurs d'association qui ont 25 races, on ne leur demande pas ça aux gens qui pourraient se piquer au jeu et venir avec nous. Non, une race. une race, ils la font bien, on les aide, on leur explique le critère, ils ont leur petite poule à eux, très bien. Moi, je trouve ça super. Je veux dire, je préfère avoir 100 personnes qui ont juste un petit carré que d'en avoir une qui a 100 races.
Oui,
là, à un moment donné, il faut être sérieux. Quoi.
On retombe dans l'industrialisation après.
Oui, on restera amateur quand
est-ce
même.
Est-ce que les industriels s'intéressent à ce genre d'animaux ?
Et non.
Non.
Mais non, il n'y a aucun intérêt. Elle est trop petite, elle est trop grande, elle a le cou comme ci, elle a...
Elle ne correspond pas à l'idée que l'on se fait d'une race à viande que l'on a aujourd'hui.
Ah, je pense,
l'image
oui,
du
oui,
poulet,
voilà.
il est bien blanc, il a
c'est
une peau caoutchouteuse,
ça.
Il fait 1,5 kg, 1,8 kg, et il vaut 3,80 euros le kilo en promotion toute l'année dans les supermarchés.
Voilà. Je veux dire, nous ça...
Oui, exactement.
Et il a aucun goût.
Merci, vous entendez Philippe Ploquin dont on parlera tout à l'heure. Oui, vas-y, continue, oui. Jean-François.
Donc voilà, on a découpé notre foire pour les deux prochains jours, les deux jours du week-end en deux, donc une bourse, une exposition. Et donc dans les missions que s'est donné notre président, Benoît Dussert, il a décidé de garder une journée pour la pédagogie. Pour la simple et bonne raison que, mine de rien, c'est pas tout le monde qui va avoir des poules chez lui. Les gens qui sont dans des milieux urbains, ils n'ont pas la possibilité. Enfin, c'est très compliqué. Je comprends, je ne jette pas la pierre, hein, nullement. Hein. Mais il faut qu'on arrive à avoir quelqu'un qui prenne derrière nous. Je veux dire, sauvegarder une race, c'est pas 30 secondes, c'est pas juste cette année, c'est pas juste l'année prochaine. Non. Sauvegarder une race, c'est plusieurs années. Il faut en vendre à d'autres pour qu'il y ait d'autres souches qui se développent ailleurs, qu'on n'ait pas de consanguinité. Il y a un petit peu de travail.
Quelle est l'espérance de vie si on entretient bien une poupoule, elle peut vivre combien de temps ?
Ça vit pas très longtemps une poule, c'est 5-7 ans.
Donc
c'est pour ça qu'il faut vite avoir une nouvelle souche de nouveaux animaux qui puissent te servir à avoir une nouvelle reproduction. Il faut s'y tenir. Et donc nous on joue beaucoup sur les enfants, c'est pour ça qu'on a gardé normalement les expositions, c'est le vendredi on fait les jugements et samedi dimanche on fait l'expo. Alors nous, on prend une journée de plus. Le vendredi, on décale la journée des juges au jeudi. Et le vendredi, c'est la journée des groupes. Alors les groupes, les enfants, les groupes scolaires, mais d'autres groupes, hein, des groupes du troisième âge qui viennent découvrir. C'est bien aussi le troisième âge qu'ils ont du temps. Justement, certainement qu'ils sont à la retraite. Donc, et après, bien sûr, les enfants.
Bien sûr.
C'est eux
qui vont manger demain.
C'est surtout eux qui vont conserver nos races demain. Et
exactement.
Donc dans l'association, on est à 70 actuellement, on a déjà 5 mineurs qui ont leur souche. Donc ces enfants sont représentés en concours avec leurs bêtes, et ils vont présenter leurs bêtes. Donc ils obtiennent des résultats.
Ils ont là-bas. Quel âge en moyenne ?
Là on a de 11 à 15.
Et ils présentent
là,
eux-mêmes pour le concours des bébêtes ?
Bien sûr.
Est-ce qu'on peut en acheter sur le lieu même de...
Tout à fait. C'est aussi objectif. Nous, si on partage pas avec tout le monde, on n'y arrivera pas. Hein. Il faut qu'on ait du monde avec nous, bien sûr.
Jean-François, je répète, 5e foire avicole des cocottes d'origine, le 3 et le 4 novembre à Langon.
Les cocottes d'origine.
d'origine, pardon, les cocottes d'origine, non. La 5e foire avicole des cocottes d'origine. Merci, la technique me fait un reproche, il a raison. Le samedi 3, le dimanche 4 novembre à Langon, l'entrée est 3 euros et pour les enfants de moins de 12 ans, c'est gratuit. Jean-François Depoudier, merci de ce que vous faites pour les poupoules, pour les cocottes, pour notre plus grand plaisir, mais également pour la nature, pour le bien-être, pour le demain, pour le présent, pour le futur, en préservant l'intelligence du passé. Merci Jean-François et venez nombreux à Langon pour cette foire des cocottes d'origne. D'O-R-I-G-N-E. C'est où à Langon ?
À la salle Nougaro.
À la salle Nougaro.
Sur les quais.
D'accord, sur les quais. Donc tous en masse, en masse, en masse. Et nous sommes à la Réole aujourd'hui. J'ai horreur des reprises de chansons, de disques, de chanteurs. C'est compliqué de reprendre une chanson. Mais celle-ci, elle a été tellement bien reprise que j'en suis tombé amoureux. Elle se prénomme Nolwenn, elle se nomme Le Roi, vous l'avez reconnu, Nolwenn Le Roi. Son dernier tube, eh bien, c'est So Far Away from LA. Et je peux vous assurer qu'elle reprend cette chanson de façon exceptionnelle. Nolwenn Le Roi, So Far Away from LA.
quelques lueurs d'aéroport. Étrange fille aux cheveux d'or. Dans ma mémoire traîne encore. C'est l'hiver à San Francisco. Mais il ne tombe jamais d'eau. Aux confins du Colorado. Et le Golden Gate s'endort sur Alcatraz où traîne encore les sanglots couleur de prison. Monsieur Carroll Chessman est mort, mais le doute subsiste encore. Avait-il raison ou bien tort? So far away. I'm no one but a shadow, but a shadow, a shadow. The Queen Mary est un hôtel au large de Beverly Hills. Et les collines se souviennent. Faste de la dynastie qui de Garbo jusqu'à Bogie faisait résonner ses folies. So far away from LA, so far ago from Frisco. I'm no one but a shadow, but a shadow.
Regardez, c'est vraiment exceptionnel. Philippe Ploquin, c'est un honneur, c'est une fierté de te recevoir dans notre émission. C'est beau, c'est bon. Et j'aimerais que tu nous en dises un peu plus sur ce magazine, sur quelle est ta démarche, quelle est votre démarche, puisque c'est une démarche à deux, pour que nous puissions mieux comprendre, mieux nous connaître, mieux reconnaître les terroirs que nous avons un petit peu oubliés.
D'abord, merci, mon cher Gérard, de nous accueillir dans C'est beau, c'est bon. Mais à travers ce que vous venez de dire, ce magazine Gourmandise, c'est né d'un seul mot, c'est la passion.
C'est joli. La passion, c'est la force de croire.
Oui, c'est la passion du beau et du bon, du savoureux, du vrai, de l'authentique. Alors...
J'aimerais souligner une chose, Philippe, quand tu parles comme cela, j'aimerais souligner une chose, quand on dit du bon, du beau, bien entendu, on ne parle pas nécessairement de l'onéreux ou du très cher.
Ah,
on n'est pas dans le luxe, on est dans la ruralité.
Ah, surtout pas. Comme je le dis souvent, alors je vais me répéter pour la xème fois, pour moi, le bon, le très bon, la gastronomie, c'est une omelette aux pommes de terre. Voilà, c'est tout simple, mais...
Encore faut-il savoir choisir la variété de pommes de terre et les œufs.
Il faut des bons œufs, des bonnes pommes de terre et du bon lard. Mais à partir de là, on peut faire un très grand plat. Il se trouve qu'hier, j'étais en reportage à Castelnaudary, chez Philippe Soloviev, avec la confrérie du cassoulet de Castelnaudary. Et Philippe Soloviev a cuisiné devant nous un cassoulet. Il a réalisé la recette devant nous. Alors, il faut savoir que pour déguster ensuite, il en avait préparé un 48 heures à l'avance. Mais très vite, on s'est aperçu qu'un très grand cassoulet, c'est un produit simple à faire. À l'origine, il faut quand même rappeler que le cassoulet, la choucroute, la paella, le couscous et tant d'autres, ce sont des plats de pauvres.
Oui, c'est
ce
vrai.
Sont des plats dans lesquels on mélangeait un certain nombre d'ingrédients.
On utilisait même les restes pour la paella.
Alors, les restes. Et donc, Philippe Soloviev, hier, nous a fait un cassoulet de Castelnaudary, qui est le père, puisqu'il y a trois cassoulets. Comme le disent les puristes du cassoulet, le père, c'est Castelnaudary, le fils, c'est Carcassonne, et le Saint-Esprit, c'est Toulouse. Ça me fait beaucoup rire, mais c'est eux qui l'ont inventé. Hein. Ça vient pas de moi. Et donc, en voyant Philippe Soloviev, qui a son auberge de la Calèche à Castelnaudary, préparer ce cassoulet, ce sont les techniques simples de cuisson qui ont permis d'obtenir ce plat exceptionnel. Mais ça a été un véritable régal. Et moi, qui ne cesse de voyager de par la France et de par le monde depuis des décennies, j'ai appris des choses hier, mon cher Gérard. Par exemple,
à ton âge.
À mon âge, à mon grand âge. Par exemple, je le vois préparer, il avait préparé tous les ingrédients dans sa cuisine. Donc il y avait bien sûr du confit de canard, il y avait de la saucisse de Toulouse, il y avait des couignes, il y avait des oignons, il y avait de la graisse de canard, il y avait de l'ail et les haricots du Lauragais. Et d'ailleurs, j'ai appris hier que le lingot du Lauragais va maintenant posséder son IGP.
D'accord. Et quelle différence y a entre le lingot du Lauragais et celui de Tarbes, alors ?
Alors, le Tarbais, c'est encore une autre forme de haricot, mais le Tarbais ne se prête pas du tout à la cuisson du cassoulet parce que le Tarbais ne supporte pas une longue cuisson.
D'accord.
Alors ça, c'est une des choses qui m'a bluffé hier. Je le vois couper des oignons. Alors, il a préparé son cassoulet pour une vingtaine de personnes. Il a coupé ses oignons, il les met dans une grande cocotte avec vraiment beaucoup de graisse de canard. Ça baigne dans la graisse de canard. Et puis, il fait blondir ses oignons.
Oui, il les fait
très,
suer
très,
aussi.
Très blondir. Non, blondir. C'est blondir. Carrément, ça mijote vraiment dans la graisse de canard. Et quand c'est très, très blond, presque à virer au brun, il les mouille, il rajoute de l'eau et il laisse faire un bouillon. Et ce bouillon, qui va donner la couleur au cassoulet et aux haricots, j'ai appris ça hier,
ah, oui.
Il va le passer, c'est-à-dire il met une passoire sur ces haricots qui ont subi une première cuisson.
D'accord.
Donc il faut la jeter.
On peut le dire.
Bien sûr. Ça fait péter, quoi. Bon, parlons cru, tout simplement.
Ah, oui.
Donc on jette cette première eau. On remet de l'eau et cette eau des oignons, il la passe, c'est-à-dire qu'il passe cette eau à travers une passoire pour garder les oignons. Et c'est la couleur de cette eau qui va donner la couleur au cassoulet. Ouais. Et j'ai appris ça hier parce que nous avons dégusté ensuite ce cassoulet en présence de la confrérie, de la grande confrérie du cassoulet de Castelnaudary. Le grand maître était présent et un certain nombre d'autres membres de la confrérie. Et alors la première réflexion de ces messieurs qui n'étaient pas barbus mais néanmoins intégristes sur le cassoulet, j'avais l'impression, je fais une parenthèse, j'avais l'impression d'un seul coup d'entrer en religion du cassoulet. Parce que alors là, c'était la dégustation, on était dans le sublime, quoi. Et alors la première réaction de tous les membres de la confrérie, c'est de regarder la cassole qui arrive sur la table, la cassole qui est ce récipient en terre cuite qui a donné le nom cassoulet. Et la première chose, c'est de regarder la couleur de la croûte pour voir si elle est dorée ou trop brune et ainsi de suite. Enfin, vous imaginez un petit peu.
Oui, parce qu'on le fait gratiner plusieurs fois et on brise la croûte, je crois.
Dans le temps, quand les mémés avaient le temps de faire le cassoulet et elles étaient devant les fourneaux de très très longues heures, on cassait la croûte du cassoulet et on remouillait le cassoulet, on recuisait et ainsi de suite. Mais sincèrement, ce que nous avons déjeuné et goûté hier et dégusté avec mon associé Françoise Perriot, je le dis très très sincèrement, c'est l'un des meilleurs cassoulets que l'on ait jamais mangé. Pourquoi ? Parce que les haricots avaient une texture, un fondant extraordinaire. Ils n'étaient pas éclatés.
Pas farineux ?
Alors absolument pas farineux. Ils n'étaient pas éclatés. Ce qui se serait produit avec du tarbais, parce que le tarbais, qui est un excellent haricot, mais ne supporte pas une trop longue cuisson, les petits morceaux de couenne à l'intérieur étaient confits, c'était une merveille. la croûte du dessus. C'est tout juste si on ne se battait pas pour avoir la croûte du dessus.
La saucisse, comment était-elle ?
Ah, la saucisse a été merveilleuse parce que... Alors, la saucisse, il faut savoir qu'un vrai cassoulet... Je voudrais pas faire un cours sur le cassoulet dans cette émission, mais j'ai appris plein de choses hier.
Et c'est important de les retransmettre à nos auditeurs de la radio de l'Entre-deux-Mers 98.4. Parce qu'on sort du cassoulet William Sorin à la sauce tomate.
Ok, là, non, mais là, c'est... Non, mais ça, c'est l'horreur.
C'est un cauchemar.
Il faut même pas en parler, c'est un cauchemar. Alors, d'abord, j'ai découvert que finalement, faire un cassoulet, c'est pas très compliqué. Il y a quelques petites techniques, mais ça n'est pas très compliqué. Et finalement, le secret du cassoulet, et j'ai appris une deuxième chose hier, c'est que lorsque Philippe Soloviev cuisine ses haricots, c'est-à-dire les met dans la deuxième cuisson, il rajoute à ce moment-là dans sa cuisson l'ail qui a été haché menu, les couennes coupées en petits morceaux et le plat de côte, coupé également en petits carrés de 3-4 cm de côté, y compris les os. Et tout ça est plongé avec les haricots et ça cuit pendant 1h30.
Donc il y a un échange entre tout ce joli monde.
Et le suc des viandes du plat de côte va se mélanger à la cuisson des haricots. Ensuite, au moment du montage, il met une première couche dans sa cassole, une première couche assez épaisse de haricots. Il met à ce moment-là son confit de canard et sa saucisse de Toulouse. Et il recouvre avec une deuxième couche de haricots. Alors, il faut absolument oublier l'idée, comme certains le disent, et c'est une hérésie, de mettre de la chapelure sur un cassoulet.
Ah non, jamais, ah non,
jamais, jamais, jamais. Le cassoulet, la croûte qu'il y a sur le dessus du cassoulet, c'est le croûtage naturel dans la cuisson au four. Et lorsque vous dégustez ça, je peux vous assurer que ça a été un très grand moment de bonheur. Et on va retranscrire ça dans le numéro d'hiver de Gourmandise, qui va sortir début novembre, puisque nous avons décidé de réaliser un grand reportage sur le cassoulet, où on va traiter donc, je vais me fâcher avec les uns et les autres, avec les trois cassoulets, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je rappelle, le Père, c'est Castelnaudary, le Fils, c'est Toulouse, et le Saint-Esprit, le Fils, c'est Carcassonne, et le Saint-Esprit, c'est Toulouse. La particularité du cassoulet de Carcassonne, et ça c'est intéressant, nous allons faire le reportage la semaine prochaine, jeudi prochain. C'est un cassoulet qui était fait en période de chasse avec du perdreau rouge, avec de la perdrix.
D'accord.
Et c'est la particularité du cassoulet de
Carcassonne.
Et pour en terminer sur le cassoulet, la différence avec ces deux premiers cassoulets, donc Castelnaudary, Carcassonne et celui de Toulouse, c'est que dans celui de Toulouse, ils mettent du concentré de tomate et ils mettent aussi de la viande de mouton.
D'accord.
Donc... Mais il n'empêche que nous avons dégusté il y a 15 jours celui de Christophe Fazan, qui tient cette belle maison qui est le restaurant chez Émile à Toulouse, et on a dégusté un excellent cassoulet. Voilà, ça fait partie de nos pérégrinations.
Vous l'avez compris. Abonnez-vous. Le magazine, ça nomme Gourmandise. Vous allez pouvoir vous régaler tous les deux mois avec une nouvelle édition.
Tous les trois mois, pardon. Tous les trimestres. Parce que nous nous sommes calés sur les produits de saison.
Exactement. Ah, donc, un par saison, et il y a des éditions collector en plus.
Alors, il y a des éditions collector parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, au fur et à mesure de nos pérégrinations, on a maintenant tellement de choses à dire que le magazine s'épaissit de trimestre en trimestre.
Un magazine qui remonte le temps, un magazine qui remonte le fleuve, qui remonte le courant. Comme je le disais, il n'a rien d'un magazine ordinaire, il a tout d'un magazine extraordinaire. Vous devez d'être abonné. D'ailleurs, Philippe vous en donnera quelques exemples tout à l'heure. Comment faire pour s'abonner sur le site internet de l'émission de la radio de l'Entre-deux-Mers. Nous allons écouter maintenant une chanson. Une chanson, je la voulais douce, cette chanson. Il se prénommait Henri, il était Salvador, il était de Guyane, il était de cette Amérique du Sud que l'on aime bien. Eh bien, il venait de bien loin, au bord des Caraïbes, entre la Guyane et la Martinique et la Guadeloupe. Henri Salvador, une chanson douce que me chantait ma maman. C'est une chanson de circonstance.
Une chanson douce que me chantait ma maman. sans mon pouce, j'écoutais un mandormant. Cette chanson douce, je veux la chanter pour toi. Car ta peau est douce comme la mousse des bois. La petite biche est aux abois, dans le bois se cache le loup. Mais le brave chevalier passa, il prit la biche dans ses bras. La 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 la, la petite biche, ce sera toi si tu veux. Le loup on s'en fiche, qu'entre lui nous serons deux. Une chanson douce que me chantait ma maman. Chanson douce pour tous les petits enfants. Oh, le joli conte que voilà, la biche en femme se changea. La 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 la. Et dans les bras du beau chevalier, belle princesse, elle est restée à tout jamais. La belle princesse avait des jolis cheveux. Caresse se lit au fond de tes yeux. Cette chanson douce, je veux la chanter aussi. Pour toi, ô ma douce, jusqu'à la fin de ma vie. Jusqu'à la fin de ma vie.
Nous sommes bien en direct sur 98.4. Vous êtes bien sur votre radio préférée, la radio de l'Entre-deux-Mers. Nous ne sommes pas à Sauveterre aujourd'hui, mais nous sommes en direct de la Réole, la foire d'automne. Vous pouvez venir nous rencontrer sur le stand de la radio de l'Entre-deux-Mers. Nous sommes là pendant les 4 jours. Je suis avec M. Philippe Ploquin, je dirais un pourfendeur, un gardien de notre santé. On devrait d'ailleurs lui remettre un diplôme, et je pense que son magazine Gourmandise devrait être remboursé par la Sécurité sociale. Confirme, hein, ma petite Tata Yo-Yo.
Tout à fait.
Elle confirme. Et oui, ce magazine est absolument magnifique. Vous avez entendu les différentes recettes du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais j'aimerais en savoir un peu plus sur l'origine de cette volonté, de ce besoin, de cette envie de créer ce magazine. Ça remonte à quand ? Qu'est-ce qui a été le déclencheur, Philippe, de créer Gourmandise ?
Avec Gourmandise, finalement, c'est très simple. Mon associé, qui est aussi mon épouse, il faut le rappeler, hein, on bourlingue ensemble depuis des décennies. Et moi, que voulez-vous, mon cher Gérard, je ne peux pas trouver une bonne adresse, quelle qu'elle soit, sans la partager. Pour moi, ça fait partie de mes gènes, de ma nature. Si je trouve un bon boulanger, un bon fromager, un bon vigneron, un bon restaurateur, j'ai envie d'en parler, j'ai envie de le faire connaître, parce que voilà, c'est comme ça. Quand je me régale de quelque chose, j'ai envie de le communiquer.
Donc tu ne caches rien, tu transmets. Et j'aimerais que tu nous parles également de cette côte de bœuf maturée. J'ai quelques souvenirs.
Ah là 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 là, ça a été un très grand moment. C'est un boucher qui est dans le Tarn, la boucherie de Beauvais-sur-Tescou. Et Frédéric, le maître boucher de cette maison, me dit il y a quelques temps, c'était au mois de juillet, il m'a dit « Écoute, je viens de mettre un train de côte de bœuf. D'une vache limousine qui a 11 ans, je viens de mettre à maturer une côte de bœuf et je veux la laisser maturer pendant 90 jours.
C'est-à-dire affiner 90
jours. 90 jours.
3 mois.
3 mois. Wow. 3 mois en chambre froide, ventilée, ainsi de suite.
D'accord.
Et au bout de 3 mois, Fred m'appelle et me dit bah, écoute, ça y est, la côte de bœuf, elle est prête. Le train de côte de bœuf, plutôt, est prêt. Alors, il n'avait pas pris trop de risques parce qu'il n'avait mis à maturer qu'un train de côte de 4 côtes de bœuf. Il faut savoir que chaque côte de bœuf pesait 3 kilos quand même. Hein.
Ah oui, quand même.
Et donc, je lui dis, bah, écoute, tu m'attends pour la couper. Je viens et je veux faire un reportage sur cette pièce de viande exceptionnelle. Donc, j'arrive dans la boucherie. Je vais d'abord voir la pièce dans la chambre froide. Alors évidemment, au bout de 90 jours, très noirci et ainsi de suite. Et il la sort de la chambre froide et il ouvre, il tranche la première côte, il ouvre la viande, il la sent, il me dit, écoute, viens sentir. Et je vais sentir cette viande et ça a été un premier grand moment dans ma vie d'amateur de viande parce que cette viande sentait, je vous le donne dans l'ordre. D'abord, j'ai trouvé l'odeur du foin, mais du très bon foin. Ensuite, une odeur de sous-bois. Et enfin, des arômes de noisettes. Là, il me coupe la côte de bœuf. C'était un mercredi. Vous allez comprendre pourquoi, je vous précise, c'était un mercredi. Je rentre chez moi, j'ai à peu près 20 minutes de route pour rentrer à la maison et je réfléchis par rapport aux arômes de la viande en me disant « Mais qu'est-ce que je vais servir comme vin avec cette viande ?» En me disant « Cette pièce de viande, je vais la servir uniquement pour ma femme et moi-même avec un bon vin. » Alors j'arrive à la maison, je vais dans ma cave et je sors une bouteille de baume de Venise rouge qui avait 10 ans.
Partie méridionale de la vallée du Rhône.
Voilà, un vin absolument remarquable. Donc nous étions le mercredi. Le samedi matin, j'ouvre la bouteille de vin en prenant mon petit déjeuner vers 8h du matin pour que le vin ait le temps de s'aérer. Je sors la côte de bœuf du frigo. Et ensuite, j'ai publié un article là-dessus. J'ai voulu publier un article pour bien montrer comment respecter la cuisson d'une viande. Parce que le boucher m'avait interpellé en me disant, tu vois, je te vends cette pièce de viande pour toi, mais il y a des personnes à qui je refuserai de la viande parce qu'ils ne sauront pas la cuire. Et après, ils vont me dire, la viande est dure. Donc, pour bien cuire une côte de bœuf, il faut d'abord la passer dans une poêle recto-verso de la côte de bœuf.
Il faut d'abord une chose, il faut la sortir du réfrigérateur.
Alors, je l'ai sortie évidemment, Gérard.
Une heure avant.
Je l'ai sortie le matin même.
Oui.
Pour qu'elle monte en température de la pièce. 4 minutes de chaque côté à poêle brûlante. Et ensuite, je l'ai passée au four. Et c'est très important, sans aucun assaisonnement. Ne surtout jamais saler et poivrer une viande avant de la cuire. Pourquoi ? Pour deux raisons. D'abord parce que le sel va faire sortir le jus de la viande.
Oui, l'humidité.
D'abord. Et ensuite, le poivre, vous allez le roussir et il va devenir acide. Le poivre ne se cuit jamais. Et j'ai cuit ensuite ma viande pendant à peu près 10 minutes au four.
Basse température, je présume ?
Non, à four assez chaud.
Oui,
mais ce que j'ai fait, c'est que ensuite j'ai ouvert le four, j'ai sorti la viande à l'entrée de la gueule du four pendant 10 minutes pour que la viande se détende. Et ensuite, nous sommes passés à table avec mon épouse. Et pourquoi je vous raconte tout ça ? C'est parce qu'au moment de la dégustation, on s'est regardé avec ma femme et on a eu les mêmes saveurs en bouche, à savoir qu'on a retrouvé des arômes de cèpe et de foie gras. C'était véritablement extraordinaire. Le baume de Venise était remarquable, donc ça a été un grand moment. Tout ça pour dire que la viande, comme tout ce que l'on peut déguster, les produits, ça se respecte. Il faut bien les cuisiner. Vous pouvez avoir la meilleure viande du monde, vous pouvez avoir le meilleur foie gras du monde, vous pouvez avoir le meilleur vin de Bordeaux du monde. Si vous le consommez à une mauvaise température, à une mauvaise hygrométrie, ainsi de suite, vous allez abîmer un plat. Comme le disait Raymond Oliver, un poulet mal cuisiné, c'est véritablement un drame de l'avoir fait mourir.
C'est vrai qu'on le tue deux fois.
On le tue deux fois, exactement. Donc voilà, et gourmandise, pour en revenir à gourmandise, Gérard, notre démarche c'est ça, c'est d'essayer de donner des tuyaux, des informations sans prétention, mais avant tout de respecter le produit. On a la chance, alors en plus aujourd'hui on est à l'Aréole, on est dans des régions où chaque région de France est un pays de cocagne. Vous allez en Alsace, vous allez en Bretagne, vous allez dans la région PACA, vous allez dans la région
de l'Aréole. Pays de cocagne, la fameuse couleur.
La pays de cocagne, mais vous avez des produits d'exception, c'est pas compliqué de bien manger. Mais les gens ne savent plus bien manger. Pourquoi ? Parce qu'il y a une mauvaise éducation des enfants. Françoise, donc mon épouse et moi-même, nous avons un fils. Notre fils, on l'a à la maison. Jamais un petit pot n'est rentré à la maison. C'est-à-dire que notre fils a eu la période Il a été élevé au lait du sein de sa mère. Et puis ensuite, on est passé à la nourriture dite des petits pots. Mais jamais j'ai acheté un petit pot. C'est-à-dire, si on mangeait de la daube, on lui mixait de la daube avec des pommes de terre. Il mangeait de la daube avec des pommes de terre, et de suite. Et aujourd'hui, je suis très fier, je peux le dire, de voir que mon fils cuisine. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc je pense que les sirènes de la grande distribution, j'ose espérer, je ne vais pas me faire des copains aujourd'hui, mais j'ose espérer que les sirènes de la grande distribution un jour finiront par arrêter de sonner et que les gens apprendront à remanger des carottes râpées qu'ils feront eux-mêmes. Quand je vois, d'ailleurs, ça va être le thème de mon éditorial dans le numéro d'hiver prochain. Quand je vois dans des caddies de supermarché des gens qui achètent des barquettes de carottes râpées, moi, ça me fait bondir.
Ça prend 3 minutes à faire.
Alors, au prix où on leur vend la carotte râpée. Alors, comme disait Coluche, pire, c'est déjà grave, ben, y a encore pire. C'est-à-dire les gens qui achètent des bouteilles de vinaigrette. Ils n'ont jamais pris la précaution de regarder la contre-étiquette et de voir qu'est-ce qu'on allait leur mettre dans leur assiette. Mais quel drame! Qu'est-ce que c'est que de faire une vinaigrette? C'est abominable tout ça. Aujourd'hui, grâce à Gérard Beau et à son ami Jean-Noël Duranteau, nous a préparé un repas, mais digne d'un restaurant étoilé Michelin. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a fait un petit velouté de potimarron avec, bon, c'est vrai, au moment du service, une petite lamelle de foie gras dedans, ben, ça gâche rien.
Mais dans le sud-ouest, c'est normal.
Sa dôme, elle était pas à mourir parce qu'on a envie d'en reprendre. Et quant à son gâteau, alors là, c'était une pure merveille et c'était tellement merveilleux que le gâteau qu'il nous a servi était léger au point de passer comme une lettre à la poste.
Et pas écœurant.
Bien entendu. Parce que du bonheur, finalement.
Voilà, vous l'avez compris tout à l'heure, on reviendra avec Philippe sur les moyens et ce qu'il faut faire pour commander ce magazine et s'abonner. En tous les cas, ce que je voudrais, c'est que vous soyez nombreux à vous abonner. En attendant, on va écouter une chanson de circonstance, certes un peu triste, mais racontée, une chanson d'un poète, d'un artiste qui nous a quittés il y a un peu plus de 30 ans. Il se prénommait Jacques, il se nommait Brel. Il venait de ce pays plat dont on connaît bien toutes ses chansons, tous ses textes. C'est un type formidable. Jamais personne ne l'a égalé. Jacques Brel, Ne me quitte pas.
Voilà. Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment. Oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi. Tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés. Tu comprendras, je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et qu'on vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler. Je me cacherai là à te regarder, danser, sourire, à t'écouter, chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Mais ne me quitte pas.
Merci Jacques Brel, merci à toi qui brille au firmament de l'éternel. Merci pour ces propos, pour ces textes, pour ces mots justes et vrais. Je sais que cette chanson fait plutôt pleurer qu'autre chose, mais ça fait penser à tous ceux que nous aimons et à tous ceux que nous aimerons encore. En direct, 98.4, la radio de l'Entre-deux-Mers vous fait l'honneur d'être présente, bien entendu, avec ses chroniqueurs tout au long de la journée, du matin jusqu'au soir, pendant 4 jours à la Réole. Je suis avec une personne que j'aime beaucoup, une personne absolument adorable, qui se prénomme Nanou. Nanou, elle a les yeux bleus, Nanou. Et avant de parler de Nanou, on va tirer au sort un nom, un prénom plutôt, et un numéro de téléphone pour faire gagner, avec télé-shopping, eh bien, une crêpière parfaite. C'est Tata Yoyo qui va tirer le numéro, ça y est, elle va nous donner à l'antenne, en direct, le prénom et le téléphone de la personne qui a gagné cette crêpière électrique, offerte par Téléshopping et la radio de l'Entre-deux-Mers.
Alors c'est Richard, donc le numéro de téléphone, il ne faut pas que je le donne à l'antenne, donc on appellera ce monsieur et puis on lui dira qu'il a gagné une crêpière.
Il se prénomme Richard. Richard, la radio va vous appeler pour vous communiquer les modalités pour récupérer votre crêpière. Je suis avec Nanou. Une fête, une foire, une manifestation ne peut pas se passer sans avoir, eh bien, bien entendu, des besoins et des envies pressantes. Besoin d'un petit pipi, besoin d'un petit popo, besoin d'aller aux toilettes, aux sanitaires. Je peux vous assurer que je viens d'utiliser ces sanitaires. Il y a des milliers de personnes qui les ont utilisés depuis ce matin. C'est d'une propreté exemplaire. C'est d'une propreté exemplaire. Alors j'ai horreur du nom de l'attribution de Madame Pipi. Moi, ouais, je dirais c'est Madame Propreté, Madame Hygiène. Donc, Nanou, expliquez-nous comment vous faites pour... Et je veux dire, cette fête ne pourrait pas être belle s'il n'y avait pas effectivement des sanitaires aussi propres. Et je peux vous assurer que dans des salons dont je tairai le nom, des salons mondialement connus, les sanitaires sont dans un état déplorable. Quand on rentre, on peut suivre les mouches. Là, c'est d'une propreté exemplaire. Ma petite Nanou, au nom de tous les exposants, au nom de tous les visiteurs, merci pour cette vigilante attention de s'occuper des toilettes.
Eh bien, je vous remercie pour cette attention. C'est normal qu'ils soient propres. Donc, je ne passe pas à chaque fois derrière les personnes, c'est impossible. Mais dès qu'il y a une toilette qui est disponible, je la nettoie. Je prends les produits qu'il faut. Je remets des papiers. Bon, ça arrive que des fois, il n'y a pas assez de papier. Alors, on me le dit. De suite, je saute de mon fauteuil et je vais remplir les boîtes pour les papiers et tout. Et pour ces messieurs, c'est pareil.
Eh bien, voilà. Moi, je pense qu'il faut savoir donner aussi la parole à ces hommes, à ces femmes qui, dans l'ombre, travaillent inlassablement. Et n'hésitez pas à laisser une pièce. Je n'ai pas dit une petite pièce, une jolie pièce, parce que ça fait vraiment plaisir. Madame Nanou, je voudrais te remercier. Et je te embrasse de la part de toute l'équipe de la radio du bassin d'Arcachon La radio de l'Antier.
Non, mais la radio aujourd'hui, il nous fait
il
tout.
Est troublé, il est troublé.
Non, mais aujourd'hui, il nous fait tout. Donc, c'est Radio Entre-deux-Mers.
C'est Radio Entre-deux-Mers, je suis désolé.
Et on la revendique.
Et c'est pas l'île aux oiseaux.
C'est pas l'île aux oiseaux.
Si, pourtant, pour aller aux toilettes, il faut sortir son oiseau.
Oui, peut-être.
Moi, Nanou, j'ai des petites questions. C'est est-ce qu'il y a des petites anecdotes par rapport à la post-pipi?
Oh là là, il y en a plein. Plein,
ben,
plein.
Au moins une.
Une. Oh non, mais c'est sale, c'est pas bien.
Pourquoi? Il y a des gens qui laissent les poids-poils avec les pieds-pièces?
Non. Vous avez certaines personnes, je les comprends, ils ne veulent pas s'asseoir sur les toilettes, malgré qu'elles sont propres. Alors ils se mettent debout ou alors ils montent sur les toilettes.
Ah, carrément.
Et ils font debout.
D'accord.
Et bon debout, s'ils font pipi, ça va, mais s'ils font le popo, caca. Il y en a plein le carrelage et plein partout.
Oui, bien entendu.
Voilà.
Bon appétit. Si vous êtes à table, prenez un digestif, l'Armagnac et cognac. Vous êtes bien, je le précise, sur la radio de l'entre-deux-mers.
Oui,
et non pas la radio de l'entre-deux-fesses.
Et encore, ça, ce n'est rien. Parce que ces messieurs sont plus propres que les dames.
Oui, ça, je l'avais déjà constaté ailleurs.
Voilà.
Merci de souligner. Nous vous remercions d'un mot.
Oui, mais c'est normal.
Et continuez de faire un travail qui est important et indispensable au sein d'un salon et d'une manifestation publique. Merci Nanou.
Merci à vous.
On vous embrasse très fort.
À la prochaine.
À bientôt.
Et n'oubliez pas votre petite pièce.
Non, sans
non,
problème.
Non, je ne l'ai pas oublié. J'étais surpris.
Bonne journée.
Merci Nanou.
Au revoir.
Au revoir. Nous étions avec le magazine Gourmandise. Après cette pause pipi, cette pause popo, cette pause radio de l'Entre-deux-Mers 98.4, veuillez m'excuser de faire des lapsus révélateur, parce que demain matin j'ai une émission effectivement sur une autre radio, mais qui n'est pas concurrente puisqu'elle n'est pas du tout dans la même zone.
Mais il n'y a pas de concurrence.
Si, il n'y a que des concurrents loyaux.
Non, mais c'est dans la bonne humeur et donc il n'y a pas de concurrence.
Voilà, donc j'avais déjà la tête dans l'autre radio.
C'est pas grave.
J'aimerais que monsieur Philippe Ploquin du magazine Gourmandise, qui se situe dans la région de Montauban, puisse nous expliquer les modalités pour devenir abonné, pour acheter, pour commander, pour aller sur le site internet, parce qu'il n'y a pas que le magazine, il y a un site internet. Et on peut aller vraiment s'enrichir intellectuellement.
Oh, mais c'est très simple. Il suffit de taper sur Internet magazine gourmandise ou asso gourmandise et gourmet.com pour s'abonner. Pourquoi le magazine, je tiens à le préciser, pourquoi le magazine se commande exclusivement sur Internet? C'est un peu pas un coup de gueule que je vais donner, mais presque. Il faut savoir qu'en France, pour la distribution de la presse, il n'y a que deux distributeurs. Et les distributeurs, pour distribuer un magazine, ils vous demandent de prélever 60% du prix du magazine. Et moi, je refuse parce que le magazine que nous éditons, vous avez la qualité sous les yeux, nous le vendons exclusivement sur abonnement. 30 euros pour 4 numéros par an, livraison comprise chez vous.
Oui.
Alors, j'ai pas envie d'aller passer par un distributeur qui va m'obliger à augmenter le prix du magazine.
Ça, c'est dit, c'est fait, c'est plus qu'un coup de gueule, j'adhère et je le précise. D'ailleurs, le magazine est soutenu par TF1 Events et par Téléshopping.
Exactement.
À partir de ce numéro aussi. Donc, vous aurez d'ailleurs la possibilité de voir des reportages, des recettes, où nous pourrons, avec TF1 et Téléshopping, eh bien, partager avec vous encore un peu plus. Donc je le dis bien, 30 euros l'abonnement par an pour 4 numéros.
Livrés chez soi.
Livrés chez vous. Donc les frais de port sont inclus.
Sont inclus, hein, oui.
Donc rendez-vous compte, hein, quand on sait ce que ça coûte. Un magazine qui pèse quand même au moins 300-400 grammes.
Exactement, bravo.
C'est à peu près le poids.
Oui, à peu près,
voilà,
oui.
Vous avez gagné une tringle à rideau, mon cher.
J'ai gagné une tringle à rideau.
C'est ça.
Le mot de la fin, Philippe Ploquin, allez, je vous laisse 2 minutes.
Ah ben écoutez, ça va être très simple. Dans le prochain numéro de Gourmandise, donc qui va sortir début décembre, plusieurs grands dossiers. Le cassoulet.
Les cassoulets.
La truffe, dans lequel un certain Gérard Beau va nous présenter une magnifique recette d'une fricassée de volaille et de macaroni truffés.
Oui.
Ensuite, un grand dossier sur le floc de Gascogne.
Ah, le floc.
Magnifique.
Le cousin du Pinot des Charentes.
Et un très, très beau dossier sur le citron de Menton.
Qui arrive à grands pas bientôt.
Ah, qui arrive à grands pas. La fête du citron de Menton, c'est au mois de février.
Mois de février, la fameuse tarte au citron de Aise Village.
Mais le citron de Menton, c'est un, un agrume absolument exceptionnel qu'il faut déguster sans modération.
Exactement. Merci Philippe Ploquin, magazine Gourmandise, la radio de l'Entre-deux-Mers, je le précise, Entre-deux-Mers 98.4, était en direct de la Réole à la foire d'automne avec monsieur Philippe Ploquin, papa de ce magazine Gourmandise, 4 numéros par an, un abonnement. Vous tapez, vous allez sur le site internet et vous pouvez passer commande. Tout est compris, tout est inclus, le plaisir, le bonheur. Un magazine qu'il faut avoir, qu'il faut conserver, à caresser et à utiliser, bien entendu, au quotidien pour mieux apprendre à manger, à boire. Bonne journée, merci Philippe Ploquin et vive le magazine Gourmandise et vive la radio de l'Entre-deux-Mers. Merci à Philippe, merci aux techniciens, merci à tous ceux qui de près et de loin eh bien, font que cette radio continue d'exister depuis bientôt 40 ans maintenant, cette radio. Merci Francis Firpinte, le président. Merci Tata Yoyo. Merci les techniciens et merci tous les animateurs de cette radio, tous les techniciens. On est très fiers d'être avec vous. Bisous, câlins et bonne fête de cette Toussaint. Demain, c'est la fête des morts. Attention, pensez-y.